boîte, Cédric Adrovert.
Je me suis trompé d'entrée en allant rendre visite à notre invité. Du coup, j'ai pu errer un moment dans les locaux de César.ch à Tavannes. J'y ai croisé du monde, passablement de bancs d'école. C'était cet été, juste avant la rentrée des classes. Et les bancs, aujourd'hui, ne ressemblent plus tellement à ceux qu'on avait à l'époque. Il y a un peu moins d'espace de rangement, beaucoup plus de connectique. Bref, je finis par croiser notre invité de ce soir. C'est la première fois que vous venez ici ? Ça se voit. Oui, il avait remarqué que je m'étais trompé d'entrée. Il m'accueille chaleureusement, mais ne me propose pas de m'asseoir, non parce qu'on démarre tout de suite la visite. Dans l'ordre, méthodiquement, on commence par les matières premières, on termine par le produit fini. Du mobilier, scolaire pour la plupart, mais pas que, on y reviendra. Très vite, je remarque que c'est le genre de patron qui sait de quoi il parle. Il connaît les termes techniques, sait à quoi servent toutes les machines. C'est normal parce qu'à la base, il est mécanicien. On prend le temps, même si c'est la grosse bourre, parce que c'est la rentrée. Les matières premières viennent au maximum de Suisse, le café vient de Soleure, tout est produit sur place. Notre invité est fier de son produit et de sa région et ça s'entend. Quand il raconte que chez Louis Vuitton à Paris, il y a deux établis au quatrième étage qui sont fabriqués à Tavannes, il y a un petit sourire qui se dessine chez lui. Il est authentique, il aime la simplicité, un mot qui est écrit en majuscule sur une porte de l'entreprise d'ailleurs, et il ne veut pas faire les choses comme tout le monde. Ce soir, nous recevons le patron de César.ch, Roland Tsouk, bonsoir.
Bonsoir.
Roland Tsouk, comment on passe de mécanicien sur poids lourd à patron d'une entreprise de mobilier ?
On perd un emploi et puis on se réoriente.
Vous l'avez perdu, vous avez été licencié donc ?
Oui, j'ai été licencié. J'étais dans la direction d'une grosse société, je gérais 200 personnes et puis je ne m'entendais plus avec le grand chef. J'ai perdu mon emploi et voilà, ça c'était le départ.
Alors tous ceux qui perdent son emploi ne suivent pas ce parcours-là, comment ça se fait que vous ayez eu le contact, eu l'envie ou les fonds, je ne sais pas, pour reprendre la direction de cette entreprise-là ?
Alors j'étais depuis tout jeune, j'étais très indépendant, donc je cherchais un peu ce défi. Et là, c'est une occasion qui s'est présentée. J'ai pu régler le financement. Et voilà, hop.
C'était en 2009 ?
C'était en 2009.
Le moment de la reprise, c'est quand même un gros risque pour vous. En quoi ça a changé votre vie ?
Ça n'a pas beaucoup changé ma vie. Même en étant employé avant, j'ai géré les choses comme si c'était mon entreprise. Donc pour moi, ce n'était pas une grosse charge, c'était bon, il ne fallait plus réfléchir, hein, il ne fallait plus réfléchir de foncer, et voilà.
Bon, avant ça, dans votre emploi précédent, si l'entreprise s'écroulait, c'était moins votre problème que ça peut l'être aujourd'hui quand même, il y a une responsabilité en plus.
Il y a peut-être une responsabilité en plus, oui.
Vous avez hésité avant de reprendre cette fonction ?
Non.
Non ? Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Alors, de pouvoir gérer tous les domaines, donc toucher à du marketing, toucher à de la fabrication, toucher au domaine de la vente. Donc, c'est vraiment très varié, très vaste, et puis c'est un beau défi.
C'est important pour un patron, selon vous, de pouvoir un peu toucher à tout ?
Alors, ça dépend le type de patron. Pour moi, la taille d'une PME à 30 personnes... C'est bien. Moi, j'aime bien toucher à du concret, j'aime bien mettre...
Oui. Une petite obsession du contrôle ?
Je dirais pas ça.
Non ?
J'irais pas jusqu'à là.
Et ça, le fait de ne plus avoir de chef aujourd'hui, c'était quelque chose que vous vouliez ?
Oui.
Oui. Pour quelle raison ?
Ça fait plaisir pour décider, de devoir assumer derrière les décisions... de pouvoir être créatif, de ne pas perdre du temps, hein, de prendre des décisions rapides, de foncer et de voir si ça fonctionne ou pas.
César.ch, c'est une vieille entreprise avec toute une histoire derrière. Il n'y avait pas le .ch d'ailleurs, j'imagine, à l'époque, puisque ça date de quoi ? 1926, c'est ça ?
1926.
Oui. Au début, l'entreprise ne faisait pas exactement la même chose. Hein.
Alors au début, c'était un fabricant de vélos et de mobilier. Le point commun, c'était de l'acier tubulaire qui était soudé, brasé. Mais l'activité avec l'acier, avec un revêtement, était dès le départ l'activité clé de l'entreprise.
Vélo et meubles. Les vélos ont été abandonnés. Il ne restait que les meubles et les meubles scolaires. Pourquoi scolaires ?
L'acier tubulaire, si vous regardez dans les écoles, les chaises, donc ça, c'est du très similaire, hein, donc de l'acier qui est cintré, du tube qui est cintré, donc ça collait très bien avec l'activité des vélos.
Au moment de la reprise en 2009, vous, qu'est-ce que vous avez souhaité changer ou apporter à César?
Alors, au niveau de la fabrication, on avait un degré faible d'automatisation. Donc là, pour pouvoir assumer les volumes, on était obligé d'investir, on était obligé d'automatiser, que ce soit au cintrage, que ce soit au niveau de la soudure. Hein, aujourd'hui, on soude le 80% de toutes les pièces, on les soude d'une manière robotisée. Donc ça, c'était des choses à changer. Au niveau du développement, donc il y a le monde de l'enseignement a beaucoup changé. Il y a de l'intégration d'informatique, il y a l'aspect ergonomique qui devient plus important, donc des éléments qui bougent, qui sont réglables en hauteur, en inclinaison, etc. Donc tout ça, ça nécessite au niveau technique un autre meuble que c'était le cas il y a quelques années en arrière.
On va revenir sur l'évolution du mobilier. J'aimerais juste revenir sur l'automatisation et la robotisation. Vous avez repris en 2009, en même temps l'entreprise elle est passée de 20 à 30 employés. On robotise, on automatise et on engage en même temps. Comment ça se fait ?
Alors aujourd'hui, c'est le robot qui nous assure les places de travail.
C'est-à-dire
pour décrocher des gros marchés, il faut être efficace, il faut être à la hauteur au niveau des prix, au niveau de l'efficacité. Et donc tout ça, ça crée ce volume, crée aussi des activités manuelles derrière. Et puis donc c'est le robot qui nous assure des places de travail, une augmentation de places de travail.
Mais les métiers ont changé, il y a des métiers qui ont disparu et d'autres qui sont arrivés ?
Alors c'est devenu plus complexe, oui.
Dans quel sens complexe, c'est de la programmation.
Donc programmation au niveau de la construction, conception, au niveau de la connaissance ergonomique. Donc aujourd'hui, on a des ingénieurs, on a des spécialistes de programmation de robots. Donc ça a changé, oui.
Si on vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous produisez, vous répondez quoi ?
On fabrique des places de travail ergonomiques.
Oh, mais il n'y a même pas de mention du côté scolaire, du coup.
Alors, c'est aussi une place de travail.
Oui, mais vous ne mettez pas en avant le côté scolaire spécialement. Vous cherchez un peu à vous diversifier ?
Oui, donc ouais. On a actuellement environ, on est à 60% dans le scolaire, à 40% dans l'industrie. Là, très varié, donc industrie horlogère, des établis, des places de travail semi-automatisées, l'intégration de machines. On est aussi dans le medtech. Donc là aussi, il y a pas mal d'activités qui nécessitent des places de travail très, très particuliers.
On va commencer peut-être par parler un petit peu du scolaire. Vous faites des meubles, ça va de la crèche, il y a des petits jouets à l'université, des besoins très différents. Comment vous vous adaptez ?
Alors, on est beaucoup à l'écoute de nos clients. La majorité de notre gamme standard de mobilier scolaire, à la base, c'était un projet qui était fait en commun avec un client. Donc, développement, une exigence, il y a le monde d'enseignement qui change. Ben, typiquement aujourd'hui, il y a plus de travail de groupe, donc le mobilier doit être plus flexible, on doit pouvoir changer l'aménagement d'une salle très très rapidement, donc ça c'est d'autres exigences. Après, il y a des normes ergonomiques, il faut savoir les tailles des élèves, il faut savoir les plages de réglage, et tout ça, ça nous emmène après à un autre produit qui devient après un standard.
On a tous en tête le vieux banc d'école qui se soulève par le dessus et qui laisse un grand espace, ce vieux banc sur lequel on a passé passablement de temps. Là, à vous entendre, on voit que c'est quand même quelque chose de dynamique qui change avec des nouveaux besoins, les ordinateurs, travailler en groupe. Comment on fait pour suivre tout ça ? C'est que ça prend quelle direction ?
Alors, on suit d'une part en collaborant avec des hautes écoles. Hein, donc, on fait régulièrement des travaux de semestre, des projets concrets avec des gens qui font de la recherche. Après, on visite des foires au niveau international pour un peu voir l'évolution aussi du matériel didactique. Et donc, on est très très proche de la clientèle.
Il y a la chaîne de production, on l'a visitée avec vous. Vous occupez quasiment de chaque étape, ou presque. Pourquoi ne rien sous-traiter ?
Alors, on est un partenaire très très fiable. En 2016, on a fait jusqu'à maintenant environ 2000 livraisons. De ces 2000 livraisons, on a décalé le délai de livraison à moins que 10 livraisons.
Donc c'est une question de contrôle en fait. Vous ne sous-traitez pas pour pouvoir garder le contrôle de A à Z, c'est ça ?
Alors c'est d'une part de garder le travail au sein de l'entreprise pour pouvoir créer des emplois. et d'autre part pour maîtriser la qualité, la fiabilité du produit.
En termes de qualité, sur votre site internet, vous parlez de Swiss Made, fabrication suisse. Vous utilisez beaucoup de matériaux suisses. D'ailleurs, pour quelles raisons ? C'est juste marketing ?
Ah non, alors je suis convaincu que ben, si on est bien en Suisse et si ça fonctionne bien en Suisse, c'est parce que on est quand même une société ou une région qui regarde un peu l'un pour l'autre. Et puis moi, je pense que c'est bien de faire de cette manière-là, et c'est bien de garder les choses un peu régionales et de ne pas forcément aller dans des pays qui sont loin de chez nous
pour
tout et n'importe quoi. C'est plus cher à l'investissement. Si vous comparez les prix sur une durée de vie, je ne pense pas que c'est plus cher.
Autre point à noter dans l'entreprise, vous utilisez 50% de courant écologique. Pour quelle raison ?
Alors, moi, je pense qu'on a des ressources limitées au monde. Donc, d'ailleurs, il y a la discussion qui est en cours avec les trois terres qu'on utilise, si tout le monde utilisait la même énergie que nous. Donc là, je pense que c'est bien... C'est bien d'être un peu attentif à ce thème.
Donc, mais là aussi, effectivement, c'est un enjeu. Vous y êtes sensible personnellement. Pour l'entreprise, le courant écologique est un petit peu plus cher que l'autre courant, non ?
C'est juste, oui.
Et donc, c'est juste par vos valeurs personnelles, ce que vous souhaitez mettre dans l'entreprise ?
Alors, c'est par nos valeurs personnelles. Nous, on est une société qui veut être authentique, qui veut se battre pour le produit régional. Le courant écologique y fait partie. C'est clair qu'on le met en avant. Il y a des comptants qui ont, dans leurs conditions d'achat, qui mettent en avant qu'il faut favoriser des sociétés qui fonctionnent de cette manière.
C'est un argument aussi marketing.
C'est aussi un argument marketing.
Reste encore à trouver des clients. Dans l'éducation, on est souvent sur des marchés publics. Comment vous prospectez ? Comment vous trouvez des clients ? C'est que de l'appel d'offres ?
Non, alors on suit la publication des constructions, hein, donc il y a des instruments qui permettent de surveiller chaque publication, et on fait une petite lettre de présentation d'entreprise. On a trois commerciaux qui tournent sur le terrain, qui vont conseiller ses clients, donc on fait beaucoup de démarchages aussi.
C'est dur, il y a beaucoup de concurrence ?
Alors il y a de la concurrence, hein, on n'est pas seul.
Ouais. Et là, il faut jouer des coudes, ça se joue sur le prix.
Alors le prix, c'est un critère, mais c'est surtout aussi d'avoir une bonne solution, d'être à l'écoute du client, d'être réactif. On voit que la réactivité puis la fiabilité, c'est des choses qui sont en train de disparaître à beaucoup de places. Donc là, on essaye aussi de se différencier du reste.
Une fois le produit fait, il reste la livraison. Jérémy Favre est venu vous rendre visite au plus mauvais moment, juste avant la rentrée des classes, quand vous êtes dans un gros rush.
Sortie de boîte.
Christophe Charrière, je travaille dans l'entreprise depuis 4 mois, au montage et aussi un peu à la livraison.
Où est-ce qu'on va aujourd'hui ?
À Bienne, à l'école du Châtelard, sauf erreur. Du Châtelet, pardon. Là, je suis en train de décharger les chaises que je vais mettre devant la porte, et puis après, mes collègues vont les dispatcher dans les classes.
Non, laisse-les devant, c'est bon, on
fait après. Ouais, je les ai mis sous l'abri, là.
Ouais, là, c'est bon.
Ouais, c'est bon.
Ok.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Pareil, ça. Je m'appelle Tobias Geiser. Alors, chez César, je suis engagé comme chef de projet.
En termes de logistique, ça représente quoi aujourd'hui, un emménagement pareil ?
On a 2-3 tonnes et demie avec des remorques. Mais pour une tellement grande quantité, on a fait appel aussi à une entreprise de logistique, donc un camion avec remorque.
Là, aujourd'hui, vous êtes combien pour faire ça ?
Donc ici, on est 4 personnes de chez César, plus le chauffeur qui fait l'aller-retour, qui est externe. Alors ici, c'est le client, donc la ville de Bienne, qui nous a mis à disposition des plans pour chaque salle de classe. Donc on a des dessins, quelle chaise va où, contre quel pupitre, combien de chaises.
Ok, alors on a les chaises, on les a sous l'abri. C'est bien vraiment d'amener les chaises, bien compter les chaises dans chaque salle. On fait ici, on fait de l'autre côté, et quand ils ont fini, on fera la salle du haut. En attendant qu'on a fini, on pourra rentrer déjà toutes les chaises à l'abri, pour que quand il y a le camion qui arrive, qu'ils puissent tout décharger.
D'accord. Ok.
Maurice Gianchetta, je suis responsable du service logistique de la ville de Bienne. C'est un bâtiment qui a été construit il y a une quarantaine d'années, Et puis, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait depuis. Et c'était vraiment une grosse priorité pour la ville de Bienne d'assainir ce bâtiment qui fait partie, entre autres, du patrimoine. On est dans la dernière semaine des vacances avant la rentrée. Tous les fournisseurs de mobilier à qui on a fait appel viennent livrer au jour J, qui est aujourd'hui. C'est une journée qui a été préparée bien à l'avance, puisque les fournisseurs qui sont là ont répondu à un appel d'offres pour le mobilier. Et sur cette base-là, on a fait toute une planification pour qu'aujourd'hui, tout se passe bien.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Tavannes, où notre invité est Roland Zog de l'entreprise César.ch. À Tavannes, justement, entreprise spécialisée dans le mobilier, notamment le mobilier scolaire, les places de travail. On l'a entendu, le jour J, la rentrée des classes, vous êtes quelque part un peu des saisonniers. Quand les gens sont en vacances, c'est là que vous travaillez le plus. Comment vous gérez cette fluctuation dans le travail qu'il y a à abattre ?
Donc déjà, l'emploi de notre personnel, on les rend attentifs que nous, le rush, c'est en été. Donc, il y a une interdiction de vacances durant les mois de juin et juillet.
Il n'y a pas de juilletiste chez vous?
Non. Oui. Et en plus de ça, sur certaines machines, comme le robot de soudure, on passe au mois de mai, on passe en deux équipes, et puis on fait du 4h, 9h sur 5 jours.
Mais il y a quand même des engagements temporaires qui se font pour ces périodes de rush?
Alors, on essaye d'éviter au maximum. Après, au niveau de la livraison, là, on a souvent de la main-d'œuvre additionnelle. Le reste de la fabrication, on essaye avec une préfabrication durant l'hiver de maîtriser ses pointes. Mais donc, on multiplie par 6 la charge moyenne durant les deux mois en été.
Et ça doit être un sacré défi logistique quand même. Le reste de l'année, il y a le reste des places de travail, pas uniquement le mobilier scolaire. Et il y a une spécificité à votre entreprise, c'est que vous avez des produits spécifiques sur certains secteurs, des produits sur mesure. On a pu voir des bureaux adaptés pour les chaises roulantes, une table destinée aux aveugles pour lire le braille. En fait, à chaque commande, c'est un nouveau projet qui démarre chez vous.
Alors, on fait beaucoup de personnalisé. Donc, notre façon de concevoir puis de construire, elle est très modulaire. Donc, on a des modules des réglages en hauteur, on a des modules de réglage en inclinaison. Et à la conception d'une nouvelle situation, on prend ces modules et on les configure d'une autre manière. Donc, ça nous permet d'être très, très rapide. Ça nous permet de pouvoir personnaliser d'une manière très, très simple en restant dans des coûts très raisonnables.
Comment vous faites pour personnaliser et répondre aux besoins du client? À quel moment vous entrez en jeu? Dès le début, le client vient vers vous et vous dit « j'aimerais ça, 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 j'ai tel problème ou tel handicap ou tel défi » et derrière, vous travaillez ensemble?
Alors idéalement, c'est tout au début, oui. C'est là que c'est le plus simple. Donc on se retrouve, on analyse la situation, on fait peut-être une analyse ergonomique, des éléments à intégrer, il y a des fois des flux de matériel à respecter. Et après, souvent, ça passe sur un modèle en 3D. Donc déjà, à l'écran, on peut voir pas mal de choses, améliorer pas mal de choses. Et après, c'est le processus donc, d'une maquette, d'un prototype, d'un test, et après, la réalisation du projet.
Quel est le bureau dont vous êtes le plus fier?
Alors, on a fait dans les places de travail en horlogerie, surtout dans l'intégration de machines, on a fait vraiment des très très belles choses, très très complexes, avec l'intégration de commandes numériques, avec des plateaux en pierre acrylique, avec vraiment des choses très très sophistiquées et ergonomiquement très très haute performance.
Dans une autre thématique que vous avez à cœur, et on terminera gentiment cette émission avec ça, il y a les valeurs, on en a parlé déjà, les conditions de travail. Vous êtes une entreprise formatrice, vous avez deux apprentis, peut sembler peu, mais c'est quand même quasiment 10% de votre nombre d'employés. L'ouverture au télétravail, le confort de vos employés, c'est quelque chose qui apporte un plus à l'entreprise, selon vous?
Alors moi, je pense au jour d'aujourd'hui, c'est important de pouvoir proposer une certaine flexibilité. Si vous prenez des gens qui sortent d'études, qui se lancent dans un défi de travail, si vous voulez que ça soit efficace pour eux aussi, vous êtes obligé d'aller dans cette direction. Et puis donc, il y a des places où ce n'est pas possible. Donc, comme le service au téléphone, vous devez l'assurer de telle à telle heure. Mais il y a plein de fonctions où c'est égal, où c'est que la personne se trouve, à quel taux elle travaille, où c'est vraiment qu'une question d'organisation.
Une entreprise de formation, le bien-être des employés, la région, l'écologie, beaucoup de valeurs qui ressortent comme ça de votre entreprise. Ça rapporte quoi au final ? De la motivation chez les employés, une image, quelque chose qu'on peut mettre dans un appel d'offres ? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement ?
Alors moi je pense que c'est une certaine fierté pour tout le monde, hein, donc pour tous nos employés. Donc si on a du succès, c'est grâce aux collaborateurs qui font un bon boulot. Je pense que ces valeurs aussi, ben, nous on recherche aussi des collaborateurs qui peuvent se mettre derrière ces valeurs, qui sont d'accord avec ces valeurs, et c'est un tout. Je pense que c'est un facteur motivant, oui.
Roland, que vous avez parlé tout à l'heure de l'horlogerie, vous travaillez avec les horlogers, avec la famille Lecoultre, vous avez déjà travaillé ?
Non.
Non, ben Marie-Lise Taillard, elle a eu affaire avec eux, en tout cas dans les livres, et elle ressort notre chronique horlogère de cette semaine en lien avec cette dynastie.
Pile à l'heure. Nous plongeons au cœur d'une dynastie dont le nom est familier à ceux qui s'intéressent à l'horlogerie, Lecoultre. Cette famille d'origine française arrive en Suisse vraisemblablement au XVIe siècle. Pierre Lecoultre achète du terrain dans la vallée de Joux. En 1612, il y bâtit une église. Cet acte marque la fondation du village baptisé le Sentier. C'est là que se trouve encore aujourd'hui la manufacture Gégère Lecoultre. Et c'est à un descendant de Pierre que nous nous intéressons tout spécialement aujourd'hui. Jacques-David Lecoultre, ou si on veut être complet, Jacques-David Abraham-Joseph Lecoultre. Un homme au paternalisme tyrannique, selon Jean-Claude Nicolet, dans son livre intitulé « Miettes de vie, souvenirs d'un maître horloger ». Jean-Claude Nicolet consacre un chapitre à son père, qui a quitté les montagnes neuchâteloises après la crise des années 1920-1922 pour gagner la vallée de Joux. Il est alors entré dans la célèbre maison Lecoultre. Tout ce qui suit est tiré du livre de Jean-Claude Nicolet, qui évoque ce que son père a vécu. Jacques-David Lecoultre faisait la pluie et le beau temps dans son entreprise, dans le village du Sentier et jusque dans les familles. Le patron exigeait que les enfants de ses ouvriers prennent leur place à l'usine sitôt finie l'école obligatoire. Le dernier fils d'une famille de quatre garçons avait été inscrit à l'école normale, alors que ses aînés étaient tous dans l'usine comme leur père. Apprenant cela, Jacques-David Lecoultre a exigé du père qu'il le fasse venir la semaine suivante, sans quoi il devrait quitter l'usine, lui, avec ses trois autres fils. Le lundi, la mort dans l'âme. Le Benjamin a pris sa place à l'établi pour y rester un demi-siècle. Pas d'échappatoire à l'époque. Quand le travail pressait, Jacques-David Lecoultre ordonnait des heures supplémentaires sans demander aucune autorisation et sans payer ce qui était prévu par la loi. Dans ce cas, il décidait aussi que tel ou tel ouvrier ne ferait pas son cours de répétition militaire parce qu'il y avait trop de travail. Ses demandes au département militaire étaient généralement acceptées, mais il laissait les hommes concernés payer eux-mêmes leurs taxes militaires. Des patrons paternalistes, on en rencontre encore aujourd'hui dans l'horlogerie, mais pas aussi tyranniques, enfin j'espère. Juste peut-être, pour certains, un peu orgueilleux ou égocentriques. En témoigne cette blague qui circule dans le milieu. Quelle est la différence entre Dieu et un horloger ? Dieu ne se prend pas pour un horloger.
Pile à l'heure. Et c'est sur ces belles paroles que prend fin cette émission. Roland Zog, le responsable d'entreprise César.ch, patron paternaliste.
Ça va.
Sans plus. Vous étiez notre invité ce soir. Rien à voir avec le métier, mais vous vous intéressez au foot.
Oui.
Oui, beaucoup. Ouais. Un club préféré en Suisse ?
Young Boys,
bon ben ça va pas spécialement vous concerner la semaine prochaine puisque nous recevrons Christian Bengli, le président de Neuchâtel Xamax, qui sera notre invité. Xamaxion, vous êtes pour qui ?
Young.
Vous utilisez un joker, vous avez raison. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir. Très bonne soirée.
Merci à vous.
Donc la semaine prochaine, on parlera d'argent dans le foot, de contrats avec les joueurs, des relations sponsors, de l'émotionnel qui entoure le monde du football. Surtout trois jours avant un match de coupe qui oppose Xamax au FC Sion. Semaine prochaine, sortie de boîte, même heure, même endroit. Très bonne soirée. Sortie de boîte.